issue des constitutions. Et je pense notamment au principe de précaution qui décrit la
constitution. C'est aussi la constitution.
Donc, en l'occurrence, est-ce que la convention de la Chambre serait donc au-dessus de la constitution?
On prend plusieurs questions, je réponds une à une, c'est mieux, peut-être une à une, non? Je ne sais pas, vous voulez. Hein, comme ça, ça évite qu'on oublie. C'est mieux. Alors, la question de la hiérarchie des normes, c'est une question tout à fait importante, puisque, si vous voulez, vous avez la théorie institutionnelle qui dit que les États sont les seuls sujets de droit international et qu'ils sont tenus par leurs propres engagements, et que donc vis-à-vis de l'extérieur, ils ne peuvent pas opposer une disposition de leur droit interne pour ne pas respecter leurs engagements internationaux. Voilà. C'est-à-dire que dès lors qu'un État a pris un engagement international, il ne peut pas dire « je ne le fais pas parce que ma constitution me l'interdit ». Non, il n'a pas le droit de le faire. Il doit se débrouiller lui-même avec ses propres textes, mais du point de vue de ses engagements internationaux, il est lié. Et donc, concernant les accords qui sont des traités internationaux, les accords de libre-échange engagent de la même manière. Voilà. Alors, comment ça se passe dans notre constitution?
Oui. Le Conseil constitutionnel, il va forcément rejeter à ce moment-là l'accord.
Ah non.
Il n'est pas conforme à la constitution.
Ah non, non. Non, non, le Conseil constitutionnel dira rien. Pourquoi? Parce que vous avez, je crois que dans la Constitution, c'est un article 55, mais il faut vérifier, qui dit que les traités internationaux ont une valeur égale, équivalente à celle de la Constitution, sauf s'ils sont contraires à la Constitution, auquel cas il faut modifier la Constitution. Alors, le Conseil constitutionnel dans ces cas-là, mais ce n'est pas une critique spécialement, hein, c'est la description de la situation institutionnelle telle qu'elle est maintenant, a intégré l'idée qu'il y avait une hiérarchie des normes qui étaient les normes de l'Union européenne, les normes nationales, il y a une hiérarchie qui est fixée maintenant, et donc le traité qui est négocié par l'Union européenne sur le mandat des États est un traité international qui engagera l'ensemble des pays, dont la France, nonobstant ce que peuvent raconter les constitutions. Voilà. Donc il ne faut pas spécifiquement attendre de protection ou de sursaut, je ne sais de quoi, de ce côté-là. C'est vraiment du côté de nos mobilisations qu'on y arrivera, pas en attendant une hypothétique décision du Conseil constitutionnel qui, pas plus que pour le reste, je veux dire pour les autres accords, ne dira rien.
Les fameux arbitres qui, s'il n'y a pas de choses à examiner, qui sont payés 2000 euros par mois, d'où vient cet argent qui financera?
Bah vous.
Nous.
Bah vous.
Concrètement.
Alors voilà, c'est ma réponse.
Ça,
1000 est un
euros
petit peu.
Pour l'Europe et 1000 euros pour les.
Oui.
Puisque c'est en commun.
Oui. Oui, mais ça c'est pas grand chose, hein, objectivement. Oui, c'est-à-dire que en gros, si vous voulez, les accords de libre-échange, les accords d'une manière générale, quand ils sont bien faits, prévoient tous une administration attachée à l'accord, c'est-à-dire un comité de suivi. Pour CETA, ça s'appelle le comité conjoint, qui est composé de représentants, de fonctionnaires détachés, si vous voulez, de partie et de l'autre, avec un budget de fonctionnement qui sera voté moitié Union européenne, moitié Canada. Voilà. C'est comme ça que les choses vont se passer. En revanche, lorsque il y a une condamnation par les arbitres, là, c'est la partie perdante. Qui le paye. Et je vous avais promis que je vous donnerais quelques exemples. Alors, je ne sais pas si vous en voulez. Vous en voulez. Non, parce que c'est quand même assez intéressant, ces histoires de mécanismes de règlement différents investisseurs-États, parce que nous, quand on regarde ça, on est un petit peu comme les lapins dans le phare de la voiture. On est un peu surpris, quoi. On est un peu comme ça, en se demandant qu'est-ce que c'est que cette histoire, quand même. Parce que c'est quand même, objectivement, c'est un côté délirant, en fait. C'est très sérieux, mais c'est un côté délirant. Parce qu'on est quand même sur des arbitres qui sifflent et qui disent à un État, avec les institutions, il y a eu des votes, il y a un peuple, enfin, il y a tout ce bazar-là, il y a tout ça, et il dit « Oh là là, mais là, vous avez pris une loi qui ne convient pas à mes bénéfices, vous me devez tant. » Enfin, c'est quand même, quand on réfléchit, c'est quand même quelque chose d'assez sidérant. Eh bien, ce n'est pas nouveau, figurez-vous. Parce que ça existe dans un accord de libre-échange qui s'appelle l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, depuis 20 ans. Voilà, chapitre 11 de cet accord. États-Unis, Canada, Mexique. Et puis, également, je vous ai dit tout à l'heure, au tournant des années 2000, les puissances se sont dit, on va multiplier les accords régionaux. Eh bien oui. Et ils ont multiplié les accords bilatéraux sur l'investissement avec ce type de mécanisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en existe pas mal, en fait, déjà. Et alors, évidemment, nous, on ne peut pas passer notre temps, nous, citoyens, citoyennes, on ne peut pas passer notre temps à regarder ça. Et on a un petit peu découvert. Et je vous conseille d'aller de vérifier, comme tout ce que j'ai raconté d'ailleurs, mais de vérifier ce que je raconte en allant voir sur le rapport de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, de mars 2015 et mars 2014 aussi. Mais mars 2015, c'est plus complet, sur les arbitrages pendant dans le monde. Il y en a plus de 500 aujourd'hui dans le monde qui sont en instance, qui utilisent beaucoup d'organismes d'arbitrage, enfin beaucoup, il y en a 2-3 importants. Et là, si vous avez le courage de lire ça, alors là, malheureusement, c'est écrit en anglais, mais comme toute cette littérature, vous verrez que l'Argentine, par exemple, a payé 600 millions de dollars parce qu'elle a pris des mesures de protection de sa population pendant la grande crise qu'elle a traversée, qui consistait à mettre un prix maximum d'accès à l'eau et à l'énergie. Voilà. Et ça a coûté, pour l'instant, 600 millions de dollars. Il y en a encore 600 autres millions qui sont pendants, pour un total de 1 200 millions, c'est-à-dire 1 milliard 200 millions de dollars. 600 ont été payés au bénéfice de CMS Energy, Vivendi et puis Aguas de Barcelona, parce que c'était contraire à leurs bénéfices escomptés. Alors évidemment, quand je dis l'Argentine a payé, bien sûr, vous avez traduit immédiatement, l'Argentine a payé. Les gens qui vivent en Argentine et qui payent des impôts en Argentine ont payé. C'est-à-dire qu'avec leurs impôts, ils sont venus à l'aide de ces entreprises nécessiteuses plutôt que de faire des choses intéressantes, enfin, pas intéressantes comme, je ne sais pas moi, des infrastructures, des hôpitaux, des écoles, enfin, toutes ces choses qui ne servent à rien, c'est bien connu, et pour 600 millions de dollars, avec 600 autres qui attendent. L'Équateur a été condamné à 1,8 milliard pour avoir, de dollars toujours, pour avoir privatisé son pétrole au bénéfice Occidental Petroleum, qui elle aussi en a besoin, sans aller aussi loin géographiquement, l'Égypte. Très intéressant le cas de l'Égypte. L'Égypte est poursuivie par Veolia, il en va aussi pour plusieurs dizaines de millions de dollars, parce que l'Égypte a décidé de passer le salaire minimum égyptien de 41 à 71 euros par mois. C'est pas le même tarif. Hein. C'est trop. Et donc Veolia demande une compensation. L'Allemagne, sans aller plus loin. L'Allemagne. Parce que vous n'êtes pas. Je suis trop. Comment dire? Vous n'êtes pas assez pervers, c'est pour ça. Voilà, le mécanisme, il est le suivant. Veolia a un marché. Ce marché, elle a, pour avoir ce marché de traitement des ordures ménagères, fait un investissement de 100. Et elle peut escompter aux conditions où elle a fait le marché au moment où elle a fait son investissement, que ça va lui rapporter 150. Son marché consiste à traiter les ordures ménagères, avec des gens qui vivent sur place. C'est-à-dire qu'elle est, elle a recruté des Égyptiens, des Égyptiennes qui vivent sur place et qui donc sont payés 41 euros. Donc elle entendait 150, mais avec des gens qui sont payés 71, elle n'aura plus que 148, par exemple, ou 145. C'est ça l'idée. Mais vous avez aussi Vatten... une autre, mais je... Oui.
Justement, sur cet exemple égyptien, parce que j'ai eu l'occasion de voir le site, mais je ne le connais pas suffisamment bien, et je me fais rentrer dedans systématiquement en disant, mais finalement, l'État égyptien s'est mis en accord avec Veolia, donc il faut qu'il tienne son accord. Donc, en train de là, il s'est engagé, et il faut qu'il tienne ses engagements. Et finalement, quel est l'accord qui permet effectivement à Veolia là, d'attaquer l'État égyptien? Est-ce qu'il n'y a pas d'accord de libre-échange entre la France et l'Égypte? Qu'est-ce qu'il y a derrière comme accord juridique qui permet effectivement à Veolia d'attaquer?
C'est
j'ai besoin d'éléments pour pouvoir argumenter. Voilà,
C'est une entourloupe d'une férocité complète. Ça s'appelle une clause parapluie. Figurez-vous que le contrat entre Veolia et la ville d'Alexandrie prévoyait une clause qu'on appelle parapluie, c'est-à-dire une clause qui renvoie au mécanisme du règlement des différents investisseurs États du CIRDI, du Centre international de règlement des différends sur l'investissement, qui prévoit que si la valeur d'un investissement est diminuée par rapport aux bénéfices escomptés, il s'agit d'une expropriation indirecte. Et à ce titre, cette diminution d'actifs doit être compensée. Et donc, c'est dans le cadre de ce mécanisme du CIRDI, avec une clause parapluie, que, sans accord de libre-échange entre la France et l'Égypte, Veolia a réussi à poursuivre l'Égypte. Vous voyez, c'est encore pire que ce que je vous ai raconté jusque-là.
C'est vrai que l'Égypte a été un peu naïve, vous pouvez dire.
Ah non, l'Égypte n'a pas été spécialement naïve, c'est-à-dire que... Non, je ne dirais pas qu'elle s'est faite avoir, je dirais que ça traîne dans tous les trucs. C'est-à-dire que là, on est dans le rapport du faible au fort, ou en tous les cas, quand on négocie avec une multinationale et qu'on est un État, soit on accepte les conditions, soit la multinationale perd le marché ou va ailleurs. Bon, voilà, on est dans la négociation là. Et l'Égypte a accepté ce genre de choses. Je ne crois pas que ce soit de la naïveté. Il y a aussi un autre phénomène, mais ça, là, carrément, il faudrait y passer la soirée, qui est les conditions dans lesquelles se conclut un contrat de traitement des ordures ménagères. Je ne veux pas avoir de procès, mais enfin, il se dit un certain nombre de choses sur les conditions dans lesquelles ce genre de choses se font. Hein. Ce n'est pas nécessairement de la naïveté de la part de l'Égypte, mais peut-être que... la compréhension des officiels égyptiens a été amenée par un tas de mécanismes qui relèvent de la corruption, par exemple. Si ça sort d'ici, je crois que c'est vous. Hein. Si j'ai un procès, c'est de votre faute. Hein. Oui, non, mais j'avais d'autres exemples, mais allez-y.
Hein.
L'Allemagne. L'Allemagne. Oui, vous vouliez dire quoi?
L'Allemagne. Il y a un exemple.
L'Allemagne. Vattenfall. Voilà. Vattenfall est une entreprise filiale d'une entreprise suédoise, Swedish Energy, qui a utilisé un accord de libre-échange, un accord bilatéral sur l'investissement entre la Suède et l'Allemagne, et elle réclame 3,7 milliards de dédommagement à l'Allemagne parce que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire et que Vattenfall possède 2 centrales nucléaires. Mais vous savez aussi ce qu'a obtenu Vattenfall, qui ne possède pas que des centrales nucléaires. Elle possède aussi des centrales à charbon. C'est une entreprise multicarte. Et il s'est trouvé que l'Allemagne, dont vous connaissez le militantisme vert de sa population, l'Allemagne avait décidé de réglementer le rejet dans l'atmosphère de centrales à charbon qu'elle a toujours sur son territoire. Et Vattenfall a menacé l'Allemagne en disant « Oh là là, si vous faites ça, ça va diminuer la valeur, etc., etc., et je vous attaque. » Il n'y a pas eu de procédure d'arbitrage, mais l'Allemagne a plié. C'est-à-dire qu'elle a renoncé à sa réglementation des déjections dans l'atmosphère de la centrale à charbon, machin chouette, que possède, enfin pas que celle-là, des centrales à charbon en général, dont la centrale à charbon Trucmuche, que possédait, que possède toujours Vattenfall. C'est très intéressant ça aussi, le caractère dissuasif. Et quand on revient sur l'ALENA par exemple, le Canada est un pays, notamment pas que le Canada, mais aussi le Québec à l'intérieur du Canada, mais le Canada est un pays qui fait de l'accès aux médicaments quelque chose, une politique importante, notamment avec les génériques. Ils ont été obligés de reculer sur un certain nombre de dispositifs de réduction de la marque, la patente, comme on dit, comment ça s'appelle,
brevet,
merci. Voilà, le brevet. Je suis un peu en train de polariser dans toujours les mêmes textes, donc du brevet, parce qu'il y a eu des menaces, effectivement, d'entreprises pharmaceutiques sur la réglementation envisagée. Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est une espèce de chose qu'on voit moins, puisque ça n'arrive même pas à être décidé. Il suffit de menacer. Et alors, pour finir, petite couche supplémentaire à propos de l'arbitrage. Si vous avez écouté M. Fekel, je ne doute pas que vous l'ayez fait, et qui vous est sorti l'argument selon lequel, dans l'arbitrage, l'État ne perd pas toujours. C'est vrai. Il y a un tiers où l'État est condamné. Quand on regarde les décisions d'il y a 20 ans, depuis 20 ans, un tiers où l'État est condamné. Un plus petit tiers où il y a un arrangement, et un tiers où l'entreprise perd. C'est à peu près 3/3. Condamné, arrangement, l'État perd. L'entreprise perd. Arrangement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, ce qui s'est passé en Pologne. La Pologne, après avoir être sortie du régime, de son régime communiste, enfin communiste de caserne plutôt, avait décidé de libéraliser une assurance, l'assurance, le régime d'assurance qui existait universel un peu pour tout le monde, qui s'appelle PZU. Je vous demande de pas me demander comment ça se dit en polonais, je ne pose pas assez bien la langue. Et c'est terrible, hein, c'est un nom comme ça. Et PZU avait passé, enfin les dirigeants de PZU avaient passé un pacte avec les actionnaires d'Eureco qui étaient chargés de, qui avait été l'entreprise désignée pour acheter la première tranche d'actifs privatisés de l'assurance PZU. Je ne sais pas si je suis clair. Bien. Le gouvernement change, comme ça arrive quelquefois, et le nouveau gouvernement, la Diète, la nouvelle majorité à la Diète, dit: bon, là, ça a été privatisé en partie. On arrête, parce qu'on estime que ça, bah, ça doit rester dans, ce qui reste doit rester dans le giron de l'État. Ça va comme ça. On va pas tout privatiser. On va pas tout privatiser, y compris l'assurance maladie, tout ça. Donc, on laisse ça dans le giron de l'État et on arrête là, dit la nouvelle majorité à la Diète. Donc, il y a un vote, il y a des parlementaires élus. On en pose ce qu'on en veut, mais enfin, ils sont élus. Et ben, Eureco a menacé en disant: mais attendez, mais alors moi il y avait un pacte d'actionnaires avec l'ancienne direction de PZU qui n'était pas l'État mais la direction de PZU. On m'avait dit ça, moi je croyais que je pouvais tout acheter, maintenant je ne peux pas tout acheter, c'est pas bien, etc. La parole donnée, gna gna, le contrat, tout ça, j'attaque devant un arbitre. La Pologne finit par céder, arrangement, 2 milliards d'euros de dédommagement, d'arrangement, pour motiver l'entreprise à accepter l'arrangement. J'ai fait un petit calcul, enfin pas moi tout seul, ça veut dire 250 000 salaires d'infirmières pendant un an. Pas mal, hein. 250 000, c'est la ville de Bordeaux, pour vous donner une idée. Voilà, c'est tout ça l'arbitrage.